Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, alors je ne sais pas trop comment présenter cette chronique parce qu'on va avoir affaire à un monstre. Le personnage qui nous est présenté dans la bande dessinée dont il est question est un personnage effectivement dont on se rend compte que les auteurs ici du récit ont dû énormément condenser le parcours. Alors il s'agit d'Orson Welles, l'inventeur de rêves. C'est paru dans la collection 9 et demi, et on voit bien le clin d'œil qui est fait donc au monde du cinéma ici, collection de chez Glénat, avec Noël Simsolo qui, si je ne me trompe, est responsable de cette collection d'ailleurs,
oui, scénario.
Et puis un dessinateur italien que nous découvrons pour la première fois en ce qui nous concerne, Alberto Locatelli. Et cet Alberto Locatelli, on a bien trouvé quelques traces de certaines planches qu'il a réalisées pour les éditions Petit à petit, mais guère plus en tout cas en France. On peut dire que le dessin est très coloré, réussi, vivant, enfin en correspondance avec l'histoire, s'adaptant selon les périodes. Mais alors, comment raconter Orson Welles ? Parce que, je le redis, il s'agit d'un monstre, et vous serez d'accord Thierry.
Oui, comment le raconter ? Je crois que le problème s'est posé aux auteurs, et l'ont-ils totalement résolu ce problème ?
Pas vraiment.
La collection 9,5, donc pour 9e art et 8,5, le film de Fellini, c'est une collection magnifique, dans l'ensemble très réussie, avec des sommets, hein, je pense au Patrick Devers qui était émouvant au dernier degré. Là, la matière est tellement riche que c'est difficile de bien construire quelque chose, ou au contraire de tenter une approche originale. Alors, Welles m'a toujours fasciné. Je me permets une anecdote personnelle. Nous sommes en 1974, si je me souviens bien. Je suis quand même très très jeune. Ma maman, pendant que nous sommes à Paris, m'emmène au cinéma voir Vérité et mensonge d'Orson Welles. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas le meilleur film de Welles, mais d'une certaine façon, il est très emblématique. C'est un film sur, notamment sur un faussaire. Welles était un homme qui était pétri de dons, hein, très jeune, c'est une sorte d'enfant prodige qui maîtrise tout ce qui touche, la littérature, le théâtre, le dessin.
Pour tout dire, il a percé sur les planches aux alentours de 14-15 ans. Quoi.
Voilà, c'est vraiment un enfant prodige. Mais il y a quelque chose de central dans sa personnalité, c'est que c'était quelqu'un qui était fasciné par la magie, qui était illusionniste. L'art de Welles, c'est l'art de l'illusion, avec ce que ça peut avoir de pathétique, de sidérant.
Mais du coup, on ne sait jamais ce qui est plus beau, la vérité ou le mensonge, ce qui est plus vrai, presque.
C'est totalement la question qui était posée dans ce film. Je m'en aperçois avec le recul, parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris grand-chose. Mais c'est exactement ça. Parce que Welles, il a beaucoup fait avec difficulté. Il a beaucoup créé avec énormément d'obstacles sur sa route. Mais quelque part, est-ce qu'il aurait créé autant s'il avait eu moins d'obstacles ? Et puis, quelque part, est-ce qu'il ne s'est pas enfermé lui-même dans cette posture d'artiste maudit, parcourant l'Europe à la recherche de financement pour terminer des bouts de films ? L'œuvre de Welles, c'est un work in progress à partir d'une certaine période. C'est quelqu'un qui est célèbre très jeune, qui fédère une troupe autour de lui, qui est fasciné par le théâtre shakespearien. C'est un personnage shakespearien. Il pourrait être dans une pièce de Shakespeare. C'est quelqu'un qui a renouvelé la mise en scène du théâtre shakespearien, qui l'a adapté à la radio, qui était encore un médium. Je joue les cuistres en disant ça. Qui était un moyen de communication très jeune à l'époque. On se rappelle de la célèbre adaptation de La Guerre des Mondes de Herbert George Wells.
J'en profite pour préciser qu'il avait 23 ans.
Oui, alors ça, on l'oublie. Il était tellement précoce qu'on oublie que c'était un enfant prodige, mais c'était un adolescent prodige, c'était un adulte prodige. Le Mercury Theater, avec l'adaptation de La Guerre des Mondes, qui a déclenché une panique totale aux États-Unis, qui a contribué à sa célébrité, qui a fait qu'il avait carte blanche pour signer son premier film de cinéma.
À panique et demie, ceci dit, parce qu'il a su jouer aussi avec les médias.
Encore une fois, l'illusionnisme, les apparences, la manipulation, c'est vraiment le thème de la manipulation, mais pas au sens malin du terme, au sens escroc, au sens merveilleux du terme.
Et puis Citizen Kane qui arrive 3 ans plus tard.
Oui, premier film, un film sans doute imparfait, un film qui a une dette envers certains autres cinéastes. Welles a toujours reconnu qu'il avait pris des idées chez Sacha Guitry. Le contre-plongée, la voix off, effectivement, Guitry l'avait concrétisé avant lui. Il admirait aussi Marcel Pagnol, étonnamment. Il admirait certains de ses confrères, acteurs prodigieux, qui a souvent fait l'acteur pour gagner de l'argent, pour réinvestir dans ses projets.
tout au long de sa vie, effectivement, il a fait ça. Il avait des projets très précis, dont le dernier n'a pas vu le jour, puisqu'il souhaitait, vous parliez de Shakespeare, Thierry, tout à l'heure, il souhaitait réaliser Le Roi Lear.
Oui, il y a le fameux Don Quichotte aussi, qui n'a jamais vu le jour.
En work in progress, comme vous disiez.
C'est Shakespeare fait de bout de ficelle, littéralement. On ne sait pas par quel bout l'attraper, Wells. C'est une personnalité tellement énorme qui joue aussi sur la... qui bâtit sa propre légende, je pense. J'y pense parce que c'est l'illustration de couverture. On le voit dans la scène finale du troisième homme courir dans les égouts de Vienne. On a prétendu que Wells avait littéralement remplacé Carol Reed à la réalisation, ce qui est faux, et Wells d'ailleurs rétablissait la vérité. Ce qui est vrai par contre, à mon avis, est-ce que c'est seulement mon avis, est-ce que c'est vraiment la vérité, si j'ose m'exprimer ainsi, le monologue en haut de la roue du Prater, c'est lui. C'est quelqu'un qui oscillait entre l'alimentaire, le sublime, la création, qui entretenait sa propre légende, qui était un séducteur, un charisme fou. C'est un monstre, vous le disiez au début, un monstre au sens étymologique du terme.
Une chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, il a obtenu un prix à Cannes en 1966, en même temps qu'Un homme et une femme, sauf que ce n'était pas le grand prix.
C'était un prix honorifique pour sa contribution au cinéma mondial.
Légèrement vexé, le Orson.
Je comprends, parce qu'il avait il avait un égo surdimensionné, mais on ne peut pas être un artiste comme ça sans avoir un égo énorme. Comme il était énorme à la fin de sa vie, comme il était Falstaff. D'ailleurs, je vous encourage à revoir ce Falstaff, dont il fait le personnage principal, alors que, grosso modo, c'est l'histoire de Henri V et de son ancien compagnon de beuverie, Falstaff. La déchéance de Falstaff, qui représente le passé par rapport au destin glorieux et futur du roi Henri V. Ce qu'il en fait, c'est extraordinaire. J'arrête les compliments parce que...
À ma connaissance, il n'a jamais fait Cyrano, et si je dis ça, c'est parce qu'il a un grand amour pour les nez, Orson Welles.
Il était effectivement très peu satisfait de son nez, il a joué avec les postiches tout au long de sa carrière.
Qui fait que parfois, on le reconnaît même pas du tout, dans certains déguisements, entre guillemets.
Oui, parce qu'en plus, il s'est, j'allais dire, métamorphosé. Oui, son physique a changé en peu d'années, il est devenu énorme. Alors que c'était un beau jeune homme à l'époque de Citizen Kane. En même temps que je parle, il y a des souvenirs visuels qui me reviennent. Son fameux Macbeth récité avec l'accent écossais en roulant les airs. Quelle folie. D'ailleurs, le film n'a pas marché à cause de ça, en partie. Son Othello, ou la séquence qui est filmée dans des bains turcs parce que les costumes ne sont pas arrivés à temps. Des accidents de la vie artistique, il fait des éclairs de création. C'est un aigle survolant une vallée obscure.
Impressionnant. Alors, quel est le traitement de cette bande dessinée, Thierry ? On a évoqué énormément de passages de la vie d'Orson Welles, et il y en a encore plus, évidemment, dans le livre. Moi, ce que je dois dire, allez, je me permets une remarque, c'est qu'il y en a trop, en fait.
C'est ce qu'on évoquait au début de la chronique, c'est que la construction n'est pas extrêmement bien maîtrisée, semble-t-il, si on veut être méchant. Trop, c'est trop. L'abondance des flashbacks, la sensation de s'égarer parfois dans des péripéties un peu secondaires, c'est pas le meilleur album de la série. Clairement, si je vous ai proposé d'en parler, c'est moins pour la qualité artistique. Alors, je parle pas du dessin. Le dessin, je l'aime beaucoup. La maison en couleur, je trouve un charme fou. J'aime beaucoup Noël Simsolo en tant que spécialiste du cinéma et des catégories adjacentes à cette forme d'art. La construction du livre fait que c'est pas le meilleur titre de la collection, mais Wells, quoi. Et tout est dit.
Voilà, donc vous apprendrez peut-être des choses sur Wells, surtout si vous ne le connaissez pas, évidemment. Ça vous ramènera, comme c'est le cas pour vous, Thierry, à de bons vieux souvenirs et des souvenirs peut-être à alimenter encore. Très probablement, vous aurez envie de vous plonger dans certaines biographies à propos de Wells, parce qu'on a envie d'en savoir plus, forcément. C'est le phénomène avec ce type de livre. Donc c'est une bonne introduction, moi, je trouve, au niveau du dessin, en particulier, qui colle bien à cette époque. Il y a, pour moi, une relation avec les affiches de cinéma de l'époque de Wells, et ça marche, franchement. Voilà, c'est Orson Welles, l'inventeur de rêves, chez Glénat, collection 9,5, de Noël Simsolo au scénario et d'Alberto Locatelli au dessin. Merci beaucoup Thierry, on se retrouve bientôt pour d'autres lectures.